On m'a demandé de parler de l'avenir de l'Internet, mais pour parler de l'avenir, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'Internet aujourd'hui. D'accord ? Avant de comprendre comment ça va évoluer, on va vers où ? On va essayer de comprendre qu'est-ce que l'Internet, c'est quoi ? Parce que en fait, il y a pas mal de notions qui peuvent circuler. Donc, qu'est-ce que l'Internet exactement ? Comment il fonctionne ? Donc, notre travail de chercheur consiste à essayer d'améliorer le réseau Internet et sa façon de fonctionner. Donc, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et ce que j'ai choisi de présenter ici, c'est un cas simplifié qui vous permettra, j'espère, de comprendre comment fonctionne le réseau. Et pourquoi est-ce qu'il a marché de cette façon phénoménale ? Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui un très grand déploiement de l'Internet dans le monde entier ? Pourquoi ça a bien marché ? Hein ? Évidemment, ça marche très bien, mais il y a quand même quelques problèmes. Et il y a des limitations, il y a des problèmes qui proviennent du fait que le monde évolue et qu'il y a de nouveaux services qu'on veut faire fonctionner sur le réseau. Donc, on essaiera de voir ensemble quels sont ces problèmes-là et comment est-ce que l'Internet va évoluer pour faire face à ces problèmes. C'est-à-dire comment est-ce que l'Internet pourra fournir les services à un nombre plus grand d'utilisateurs que nous sommes, que vous êtes. Et je finirai par 2 minutes pour parler qui fait quoi, le rôle des chercheurs, le rôle des entreprises dans ce domaine-là. Donc voilà le plan que je vais suivre. Maintenant, je m'intéresse au premier point, qu'est-ce que l'Internet ? D'accord ? Donc évidemment, tout le monde peut dire, ouais, mais moi j'ai l'Internet dans ma poche, j'ai mon téléphone portable, j'ai accès à tout, à Facebook, à Twitter, etc. Donc j'ai toutes les applications Internet avec moi, donc je comprends ce que c'est. Évidemment, on peut avoir accès à l'Internet par différentes façons, par téléphone portable, à partir d'un ordinateur fixe, etc. Mais qu'est-ce que c'est exactement le réseau Internet ? Donc d'abord, le mot réseau. Qu'est-ce que c'est un réseau ? En termes informatiques, on parle de réseau. C'est quoi un réseau ? Un réseau, c'est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Alors quand j'ai parlé à mon fils, il m'a dit « Oui, mais ça c'était hier, reliés entre eux. Maintenant, avec le Wi-Fi, on a le sans fil. » Le mot « relié » ne signifie pas nécessairement « relié par un câble ».« Relié », ça peut être « relié par un câble physique » ou « sans câble, sans fil, on peut communiquer d'un ordinateur à un autre. Donc un réseau, c'est un ensemble d'ordinateurs qui sont reliés ensemble hein, par un moyen de communication, qui s'appelle un lien de communication, qu'il soit filaire ou sans fil. Et donc l'Internet, c'est une collection de réseaux. C'est un ensemble de réseaux reliés entre eux. Donc d'abord, un réseau, c'est un ensemble d'ordinateurs, et puis l'Internet, c'est l'interconnexion, le regroupement, la collection d'un grand nombre de réseaux. Donc, en réalité, l'Internet connecte un très grand nombre d'ordinateurs à travers le monde. Est-ce que vous savez quel est le nombre d'ordinateurs connectés par Internet ? On va essayer de voir. En l'an 2000, donc quand l'Université de tous les savoirs a été lancée, en l'an 2000, il y avait à peu près 100 millions d'ordinateurs connectés à Internet. Aujourd'hui, ou plutôt vers juillet 2010, il y en avait près de 800 millions d'ordinateurs. Donc aujourd'hui, il y a près de 800 millions d'ordinateurs. Donc ça, c'est de 100 millions à 900 millions. On est là, en juillet 2010, on est proche de 800. Et là, ça a évolué depuis, hein ? Et donc, on a à peu près 800 millions d'ordinateurs connectés à Internet. Et quand je dis ordinateur, ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un téléphone ou autre. Maintenant, ces 800 millions d'ordinateurs sont utilisés par combien de personnes ? Parce que le PC chez vous, il peut être utilisé par plusieurs personnes. Ben alors, d'abord, voilà une schématisation des ordinateurs de l'Internet. Chaque point ici, je ne sais pas si vous voyez très bien derrière, chaque point ici représente un ordinateur. Donc voilà le regroupement des 800 millions d'ordinateurs qui sont reliés entre eux et on peut communiquer évidemment de n'importe quel ordinateur vers n'importe quel autre ordinateur dans le réseau. Mais quel est le nombre d'utilisateurs qui utilisent ces 800 millions d'ordinateurs ? Il y a à peu près 2 milliards d'utilisateurs d'Internet et qui sont géographiquement répartis de la façon suivante, il y en a 800 millions en Asie. Donc 4 milliards, 800 millions sur 4 milliards, à peu près 20% des Asiatiques ont accès à Internet. Donc en Europe, c'est plus que 20% quand même. Et donc là, on a 475 millions, hein, donc plus que 50% des Européens qui sont connectés à Internet. Dans l'Amérique du Nord, c'est plus que ça. Le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de personnes, le pourcentage de personnes connectées à Internet est plus élevé en Amérique du Nord. Regardez en Afrique, il y a 1 milliard de personnes, il y a 110 millions de personnes connectées à Internet. Donc là, il n'y a pas la même proportion de personnes qui est connectée. Mais en tout, ça fait à peu près 2 milliards de personnes sur les presque 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Donc c'est quand même une grande proportion de personnes connectées au réseau. D'abord, donc là, on aimerait maintenant comprendre comment fonctionne le réseau Internet, ou plutôt comment connecter, avant de voir comment fonctionne le réseau, comment connecter ces 800 millions d'ordinateurs. Façon très simple, j'ai un de ces 800 millions, alors je tire un câble vers les 999 millions autres. Donc là, ce qu'on appelle un maillage complet. C'est quoi un maillage complet? Chaque ordinateur, il est relié à tous les autres. Et comme ça, quand je veux communiquer avec quelqu'un, j'utilise ce fil hein, qui mène vers l'autre. Est-ce que ceci est réaliste? Est-ce que vous imaginez avoir chez vous 800 millions de câbles pour vous connecter aux 800 millions d'autres utilisateurs? Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc, on a quoi? On a quelque chose qui s'appelle un routeur. Alors, c'est quoi un routeur? C'est un ordinateur spécifique dont le rôle et de transporter vos données vers les autres utilisateurs. D'accord? Donc, vous êtes chez vous, vous êtes abonné à Orange, à Free, à Bouygues, à un autre opérateur pour l'accès à Internet. Il y a un routeur qui s'occupe de vous et qui va alors relayer vos données vers les routeurs qui vont mener vers les autres utilisateurs. Prenez un exemple. Donc là, c'est un routeur dans le réseau. Il est connecté à 8 autres routeurs par les liens rouges. OK? Mais on peut avoir un autre ordinateur qui est connecté uniquement à 3. Et donc comme ça, on peut interconnecter les routeurs entre eux et chacun de ces routeurs pouvant servir, par exemple, 1000 personnes. Hein? Je donne un chiffre au hasard comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Et donc derrière cet ordinateur, il peut y avoir un réseau qui collecte les informations des utilisateurs et qui les transmet dans le réseau, qui les envoie vers les autres utilisateurs. Entre les ordinateurs, il y a des liens. Donc, j'ai dit, les liens peuvent être filaires, comme les câbles téléphoniques. Donc, vous, chez vous, quand vous avez accès à Internet, Internet fonctionne au-dessus du réseau téléphonique. C'est le même réseau téléphonique que vous utilisez pour faire fonctionner Internet. Mais il y a d'autres types de câbles. Maintenant, on peut utiliser les fibres optiques et la transmission de la lumière pour transporter les signaux qui servent à communiquer entre les ordinateurs. Donc, il n'y a pas que le réseau téléphonique qui peut être utilisé pour le transfert de données Internet. Mais on peut même communiquer sans fil, sans qu'il y ait de fil entre les ordinateurs. Comment est-ce qu'on peut communiquer sans fil? Par la propagation d'ondes électromagnétiques. Donc, on peut, par propagation d'ondes électromagnétiques, entre deux ordinateurs, échanger des données. On peut avoir des liens satellites, c'est-à-dire on envoie le signal vers le satellite qui le réfléchit vers la Terre, et donc au bout de 250 millisecondes, un quart de seconde, pour communiquer entre un ordinateur et un autre. On peut avoir des liens Wi-Fi, chez vous, vous avez tous une Livebox ou une Freebox ou n'importe, et donc là, vous communiquez en Wi-Fi votre ordinateur avec la Livebox, vous n'avez pas un fil qui est connecté à ce boîtier-là qui vous relie à Internet. Mais on peut aussi avoir maintenant Internet au-dessus du réseau GSM ou de la 3G avec votre iPhone ou HTC ou autre téléphone portable. Donc en fait, par n'importe quel moyen de communication, on peut échanger des données entre les ordinateurs, entre les routeurs. Donc attention, il y a les routeurs qui s'occupent de relayer vos données, de transporter vos données, et il y a les liens entre les routeurs. Donc, maintenant, une spécificité de l'Internet qui le distingue du réseau de la télévision ou du réseau téléphonique, hein, c'est que le réseau de télévision, à l'ancienne, il était pour une seule application, un seul service. c'est diffuser de la télé, des chaînes télé. Hein? Il y avait un réseau pour la télé, un réseau pour la radio et un réseau pour le téléphone, etc. L'intérêt de l'Internet, c'est que c'est un seul réseau qui permet de faire tout ça, multi-service. C'est-à-dire, on peut échanger des emails, on peut échanger des messages par MSN ou autre, on peut échanger des fichiers, hein, mais on peut aussi échanger des images, des fichiers audio, des vidéos. On peut même communiquer en temps réel avec, par exemple, Skype ou autre logiciel de vidéo et audioconférence. Toutes ces applications, tous ces services utilisent le même réseau. C'est un seul réseau. Et donc, au niveau économique, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que c'est la même infrastructure qui est utilisée par tous ces services-là. D'accord ? Et on peut aussi publier des données. On peut mettre des données à disposition des autres sous forme de blog ou de site web ou autre. Donc c'est un moyen d'échange et de communication qui est très puissant. Bon, ça c'était qu'est-ce que c'est l'Internet. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors je sais qu'il y a parfois des termes techniques, je vais essayer de les simplifier au plus, mais c'est important de comprendre comment fonctionne le réseau. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le Internet Protocol, le protocole Internet. Alors, c'est quoi un protocole? Un protocole, c'est un ensemble de règles de communication entre les ordinateurs. Quand les ordinateurs parlent entre eux, ils échangent des données, il y a un langage qu'ils parlent pour pouvoir échanger les données correctement et qu'ils se comprennent l'un l'autre. Ben, cette façon de communiquer s'appelle un protocole. Alors, le protocole de l'Internet, ben, il s'appelle tout simplement Internet Protocol. Ou bien IP. Le mot IP, il est très connu, on dit c'est IP. IP, c'est Internet Protocol, c'est en anglais. Et donc, pour identifier chaque ordinateur connecté à Internet, on a besoin d'un numéro. Ce numéro-là s'appelle l'adresse IP. Pourquoi l'adresse IP? Parce que c'est le numéro hein, dans ce protocole-là de cet ordinateur. Si on n'a pas d'adresse IP, on ne peut pas communiquer sur Internet. On ne peut pas être joint. On ne peut pas joindre quelqu'un d'autre. Il faut avoir ce numéro-là. Et c'est ce numéro-là qui va permettre, alors, d'envoyer des données sur le réseau et de recevoir des données sur le réseau. Comment est-ce que le numéro permet d'envoyer et de recevoir des données sur le réseau? Quand vous vous connectez à Internet de votre téléphone portable, si vous êtes abonné chez Orange, Orange vous attribue un numéro, vous donne une adresse IP. Quand vous communiquez sur Internet, vous avez une adresse IP. Vous ne le savez peut-être pas ou vous ne connaissez pas la valeur de cette adresse IP, mais vous l'avez. Et donc, cette adresse va vous aider pour communiquer. Comment ça se passe en fait? Regardez, je reprends le même schéma que nous avons présenté. Ce sont les routeurs dont j'ai parlé et les liens qui les relient entre eux. OK? Alors, supposez maintenant que vous voulez échanger un gros fichier. Vous avez préparé un devoir maison sur tel sujet, vous voulez l'envoyer au prof. Alors, comment vous faites? Vous envoyez un email, mais comment est-ce que votre email est transmis sur le réseau? Comment fait l'Internet pour transporter votre email? En fait, sachez que les données que vous voulez transporter, votre email, votre fichier, il est découpé en morceaux. Il n'est pas envoyé en un seul bloc. Il est découpé en petits morceaux afin de pouvoir facilement le transporter sur le réseau. Et alors, voilà l'ordinateur qui s'occupe de vous. Vous êtes tranquille chez vous et vous vous connectez par votre boîte d'accès à l'Internet au routeur. Et vous voulez faire parvenir votre email au prof qui est abonné chez un autre opérateur et qui a un routeur. Et donc, le message va suivre le chemin suivant. D'abord, on va préparer les petits morceaux. Les petits morceaux dont j'ai parlé s'appellent les paquets. Ces paquets, en fait, je les schématise en bleu ici. Donc, il y a la pointe rouge qui est sur la partie paquet. Mais on voit au bout une partie jaune et une partie rouge. Cette partie jaune, en fait, c'est l'adresse IP de l'ordinateur jaune. Et la partie rouge, c'est l'adresse IP de l'ordinateur rouge. Chaque morceau qui est transporté dans le réseau, il contient l'information sur l'adresse de destination. Il va où? Il va où? Et il provient d'où? le jaune et le rouge, toujours. Et donc, il peut circuler dans le réseau, et quand il arrive vers une autre machine, vers un autre routeur, alors, celui-là, il peut regarder, ah tiens, il va vers l'adresse IP tant, qui est schématisée ici par le petit bout rouge, et il le renvoie vers cet ordinateur-là. Alors, comment est-ce que cet ordinateur a su, ce routeur, comment est-ce qu'il a su que pour le rouge, il faut aller par là? Ces ordinateurs échangent entre eux des informations afin de savoir qui est où. Et pour telle et telle et telle adresse IP, vers qui il faut envoyer l'information. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent circuler entre les routeurs dans le réseau. Nous, en fait, on ne voit rien. Nous, on envoie le message. Mais dans le réseau Internet, ces routeurs échangent des données pour dire, OK, pour tel numéro, où est-ce qu'il faut que j'envoie mon message? Regardez l'intérêt de la chose. Supposons maintenant que ce lien est cassé. Par exemple, c'était un câble, et puis il y a eu une pelleteuse, et hop, par erreur, on a sectionné le câble, et il n'y a plus de lien entre cet ordinateur et l'autre. Il y a d'autres liens, donc il va passer, par exemple, par un autre chemin. On peut contourner facilement. C'est-à-dire, dans Internet, il n'y a pas une obligation que toutes les données entre une source et une destination suivent le même chemin. Alors ça, c'est très important, parce que quand ils ont conçu l'Internet à l'origine, ils ont pensé à ça. Ils ont dit, si un ordinateur tombe en panne en cours de route, c'est-à-dire pendant le fonctionnement du réseau, on veut minimiser l'impact. Bon, l'anecdote dit que si une bombe atomique tombe sur une ville ou un truc comme ça, donc le routeur dans cette ville, il tombe en panne, on voudrait pouvoir continuer à faire fonctionner le réseau, d'accord, même s'il y a une partie qui est exclue du réseau, qui sort du réseau. Donc, ces ordinateurs échangeant des données entre eux, ils sauront que ce lien est tombé en panne, ils vont s'adapter et choisir le meilleur chemin ou un chemin possible à chaque fois. Et donc, si maintenant il y a un autre lien qui tombe en panne, on contournera et on trouvera le moyen de parvenir à la destination. Donc, cette façon de faire, elle permet de fonctionner même si il y a des liens qui tombent en panne et des ordinateurs qui tombent en panne. Donc la puissance d'Internet, c'est quoi? C'est que ça continue à fonctionner même en présence de panne. La panne n'est pas une catastrophe qui arrête le système complètement. On a toujours la possibilité de corriger, de continuer le fonctionnement. C'est très important. Donc, mais on suit un chemin qui mène vers la destination. Maintenant, que fait le routeur quand il reçoit un paquet, quand il reçoit un morceau à transporter aux autres? D'abord, il va regarder vers qui il faut l'envoyer. Donc la partie rouge, la destination, pour choisir, comme on a vu ici, pour choisir sur quelle liaison, sur quel lien l'envoyer. Mais alors, une question qui se pose. Bon, on trouve la destination, on lui envoie le paquet. Question qui se pose, est-ce que je dois garder une copie du paquet? Au cas où il y a eu un petit problème, est-ce que je garde une copie pour que je puisse alors retransmettre le paquet une nouvelle fois? La réponse dans Internet, ça ne se passe pas comme ça. Les routeurs dans le réseau ne gardent pas de copie des données transmises. Alors, comment faire si vous êtes en train de communiquer et puis un routeur, une machine intermédiaire, un ordinateur intermédiaire sur la route, il y avait des données, il y avait par exemple un quart de votre fichier qui était là-dessus et la machine est tombée en panne. Que va-t-il se passer? Ce sera perdu. Comment faudrait-il corriger? Est-ce que c'est le réseau qui corrige? Non. C'est la source qui corrige. C'est la responsabilité de votre ordinateur, vous à la maison, de détecter qu'il y a eu une erreur, en communiquant avec l'autre bout, en disant, est-ce que tu reçois tout correctement? Ouais, je reçois tout. Ok, c'est bon. Et si on n'a pas de réponse, on dit, il a dû avoir un problème dans le réseau, je dois retransmettre. Je dois retransmettre de nouveau. Ce n'est pas le réseau qui détecte les erreurs. Pourquoi? Pour simplifier le fonctionnement du réseau. Il faut que ça reste simple. Il faut que ça reste simple. Donc, on ne garde pas de copie, et s'il y a un problème quelque part, c'est alors la source qui prend la responsabilité de corriger. Bon, alors, justement, c'est cette façon de faire qui est la raison d'un succès mondial, comme le routeur ne mémorise pas les données, alors c'est très simple de connecter les bouts, les réseaux, l'un avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut faire un très grand réseau. Parce que figurez-vous, si chacun, imaginez maintenant que chacun de ces routeurs doit alors mémoriser toutes les conversations qui le traversent. Il y a 800 millions d'ordinateurs connectés, et si vous êtes au milieu, ce routeur-là, il va alors recevoir des communications des uns et des autres, et à chaque fois, il doit sauvegarder tout, et après, quand on reçoit un paquet, dire « Ah bah tiens, ça je connais, ça correspond à une conversation en cours, il faut que je vérifie ce qui s'est passé dans cette conversation, est-ce que tout s'est bien déroulé ou pas ?» Si on demande au routeur de faire tout ce travail, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, une façon technique de faire, c'est de simplifier le réseau afin de pouvoir arriver à un très grand nombre d'utilisateurs. Ok ? Donc, le routeur ne mémorise pas les échanges. Il peut alors fonctionner très rapidement dès qu'il reçoit un paquet. Son objectif, c'est de s'en débarrasser et de l'envoyer vers la destination. Et cette technique facile, cette simplicité, a permis l'interconnexion de 800 millions d'ordinateurs dans le monde. Dernier point sur les raisons du succès d'Internet, c'est qu'en fait, ce fameux protocole IP, il n'est pas lié à une technologie donnée. En fait, ça marche sur le réseau téléphonique, ça marche sur les câbles, sur différents types de câbles, ça marche sur même le câble télé, ça marche sur les liens satellites, ce n'est pas lié à une technologie donnée. Et donc, quelle que soit la nouvelle technologie qui sort, on peut faire fonctionner le protocole IP avec cette technologie. Et donc, l'Internet s'adapte à toutes les technologies nouvelles. On n'a pas besoin de changer de façon radicale l'Internet à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie. C'est ce qui a fait que l'Internet qui est inventé il y a quand même une quarantaine d'années, hein, c'est au début des années 70, et il a bien atteint sa maturité vers les années 80, et puis depuis, il n'a pas trop évolué. Et pourtant, les technologies ont évolué énormément. Et l'Internet a pu quand même survivre à tout cela, et arriver jusqu'aujourd'hui. Parce que ce fameux protocole IP, il fonctionne avec n'importe quelle technologie. Et parce que aussi, on peut faire beaucoup de choses avec l'Internet. Comme j'ai dit, email, transfert de fichiers, images, vidéos, vidéoconférences, échange de vidéos sur Internet. Donc tout cela, c'est possible. Et donc, comme on a un seul réseau, c'est très intéressant d'un point de vue économique de faire les investissements et d'exploiter le réseau pour différents services. Donc voilà les raisons du succès de l'Internet. Maintenant, alors est-ce que tout va bien, tout est rose, on finit là et on continue notre vie tranquille? En fait non, c'est pas si évident que ça. L'Internet a commencé dans les années 69. Pour ceux d'entre vous qui ont vu des films de l'époque, les réseaux à l'époque ressemblaient à cela. Hein? Donc ça par exemple, c'est l'équivalent du clavier d'aujourd'hui. Hein. Donc ça c'est l'équivalent du clavier d'aujourd'hui. Bon, il y a différents types. Ça c'est pour enregistrer, donc l'équivalent du disque. Ok. Donc il y a plein d'équipements. Et donc tout cela a bien évolué. Hein. Donc aujourd'hui, on a un monde qui a énormément évolué et pourtant l'Internet a su s'accommoder, mais on va pouvoir détecter quelques problèmes. Donc là, je vous ai montré ce qu'on appelle une ferme de PC, c'est-à-dire un grand nombre d'ordinateurs interconnectés ensemble dans un même endroit pour faire des gros calculs. Parfois, on veut lancer un gros calcul, hein, et un seul ordinateur ne suffit pas. Alors on relie une centaine d'ordinateurs, un millier d'ordinateurs ensemble, et on lance le calcul sur tous ces ordinateurs. Une partie du calcul sur chaque ordinateur. On les fait bosser ensemble. Là, c'est un autre exemple, c'est un réseau expérimental. Le petit objet que vous voyez là, c'est un robot mobile qui se déplace par terre. Et ce sont des machines Wi-Fi qui sont accrochées au mur. Et donc, ce robot se déplace par terre et envoie des signaux pour tester de nouveaux protocoles pour l'Internet. Ok ? Bon, vous avez les téléphones portables, vous avez des ordinateurs portables, et là, je vous ai montré les nouvelles RFID. Donc, les RFID, c'est les petites puces hein, qui permettent d'échanger des signaux et d'identifier... avec les échanges, on peut faire beaucoup de choses avec cela. Alors, regardez, ça, c'est un RFID. Et à côté du RFID, il y a quoi ? Un câble électrique ? Non, c'est un cheveu. Donc ça, c'est un cheveu agrandi. Et ça, c'est la taille du RFID. Et donc, en fait, ça s'appelle la poussière RFID. Parce que c'est vraiment de la taille d'une poussière, d'un grain de poussière. Et donc, la technologie permet maintenant d'avoir des objets communicants qui ont cette taille. OK ? Et donc, évidemment, si on vous dit, on va vous implanter une petite puce dans l'oreille, vous n'allez rien ressentir, mais comme ça, on pourra vous suivre où que vous soyez. Vous allez peut-être dire non. Mais si on vous dit, ouais, ça fait lecteur MP3 et ça donne la vidéo et tout, ah, on va peut-être penser à la chose. Ben, figurez-vous que maintenant, la technologie permet beaucoup de choses et beaucoup d'échanges réseau vont se faire par l'interconnexion de tous les objets à Internet. Je vais revenir sur ce sujet. L'Internet évolue pour ne plus connecter les ordinateurs, mais tous les objets physiques. Le frigo, la voiture, hein, le lave-linge, tout. Tout sera connecté à Internet. Et les équipements sont là. La technologie est là. Donc, un premier problème, c'est que maintenant, on ne connecte plus uniquement, on ne connecte plus uniquement les ordinateurs, mais on veut connecter tout type de choses à Internet. Donc, on va voir quel type de problème ça amène. Deuxième problème, c'est que, figurez-vous, quand on a conçu l'Internet au début, on ne pensait pas à mettre ce clavier dans la poche et se déplacer avec. D'accord ? C'était un tout petit peu difficile. Alors que maintenant, avec cette multitude d'équipements portables qui sont tout le temps connectés à Internet, et là, on se rend compte, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas la 3G, j'ai un petit problème, ça va pas. Eh ben, maintenant, on n'est pas content si on perd la connexion pendant une ou deux minutes. Ben, là, on est en train de bouger. Donc, en fait, quand on a conçu l'Internet au début, on n'a pas pensé qu'on allait bouger les ordinateurs. C'est quand même assez lourd. Et donc là, la nouvelle tendance, c'est d'avoir les réseaux véhiculaires. Donc, dans les voitures, il va y avoir non seulement une connexion Internet pour jouer derrière, non, mais les véhicules eux-mêmes seront connectés dans un réseau et pourront communiquer entre eux pour pouvoir échanger des données, calculer la vitesse, améliorer la sécurité routière, anticiper des bouchons, échanger des données sur le trafic, etc., etc. Plein de choses que l'on peut faire, mais aussi échanger ses emails, communiquer. Donc, en fait, on intègre le réseau de véhicules dans l'Internet. Il sera connecté à Internet. Mais pas seulement le réseau de véhicules. Bon, alors, on bouge. Donc, le problème, c'est que les véhicules bougent, les voitures bougent, et donc, on a un problème de maintenir la connexion quand on bouge. Et ça, c'est une difficulté qui n'était pas prévue. Un autre problème, c'est qu'on veut avoir la connexion Internet quand on est dans le train. Parfois, on rentre dans un tunnel. Et là, on perd la connexion. Et donc, on est en mode perte de connexion. La connexion est devenue intermittente. C'est-à-dire, ce n'est pas comme des ordinateurs fixes reliés par un câble. On a la connexion tout le temps. Comme on bouge, on peut perdre la connexion de temps en temps. Il ne faut pas que ça soit une catastrophe. Il faut que le réseau puisse continuer à fonctionner même si on est dans une situation difficile. Alors, je vous donne un exemple typique. Nous, on voyage souvent et donc on a ce problème. On est en train d'envoyer un email. On va joindre un fichier qui fait 10 mégaoctets. On commence à envoyer le mail. Et puis, on perd la connectivité. Il reste 1 méga et c'est parti. Il faut que je recommence. Donc, ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les données que j'ai transmises, les 9 mégas, ils sont où ? Ben, ils sont partis vers le réseau. Mais comme j'ai perdu la connexion et c'est ma responsabilité de retransmettre, le réseau n'a rien stocké, le réseau n'a rien gardé pour que ça fonctionne rapidement. ben c'est à moi alors de m'assurer de rétablir une nouvelle connexion vers la destination et d'envoyer de nouveau mes données. C'est pour ça, c'est un peu agaçant. Alors figurez-vous que ce mode de fonctionnement dans lequel on peut perdre la connexion, il est venu d'une idée un peu plus futuriste, c'est les réseaux interplanétaires. Parce que sur l'Internet, maintenant, il s'est déployé sur Terre. Alors, on va essayer de le déployer sur les autres planètes et de communiquer avec les engins spatiaux qui voyagent. Et donc, le problème avec les autres planètes, c'est qu'ils sont à une distance un tout petit peu élevée et que alors, quand on envoie un message, on ne peut pas être en mode attente. Oui, il faut que j'attende pour voir est-ce qu'il est bien reçu. Ça va peut-être mettre 8 minutes ou 10 minutes pour arriver, ou plus, voire plus. Et donc, c'est comme si on est en mode perte de connexion. J'envoie le message et je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver et est-ce qu'il est arrivé. Et après, je me connecte de nouveau pour recevoir l'information. Donc, ce mode de fonctionnement où je n'ai plus la connexion tout le temps, c'est une évolution de l'Internet inéluctable et qui rend les choses plus difficiles. Parce que, comme vous avez vu au début, quand on a dessiné et conçu l'Internet, on n'avait pas ça en tête. Les gens ne pensaient pas qu'on allait bouger beaucoup et même envoyer vers d'autres planètes. Donc, la difficulté ici, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas toujours un chemin possible vers une destination. Il faut pouvoir communiquer, même si on n'a pas un chemin possible à un instant donné vers une destination. Un autre problème, quand on a conçu l'Internet au début, on voulait se connecter à une grosse machine qu'on appelle un serveur. On se connecte sur un serveur pour télécharger des données, pour obtenir des données. Supposez maintenant que vous avez 10 millions d'utilisateurs qui veulent la même donnée. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du serveur? Il va accepter une première connexion, une deuxième connexion, une troisième, après il va commencer à ralentir. Après on va vous dire, on a atteint la limite du nombre d'utilisateurs autorisés, stop. Connexion refusée. Parfois vous vous connectez sur un serveur, il dit connexion refusée. Pourquoi? Limite de nombre de connexions atteintes. Parce que ça prend du temps pour que le serveur vous réponde. Vous cherche la donnée que vous voulez et vous la transmet. Et donc, ça prend du temps. Et donc, s'il y a un grand nombre de personnes intéressées par des échanges, par recevoir la même donnée, ce mode-là ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu sur Internet? Il y a eu le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est quoi? Le pair à pair. C'est un mode d'échange dans lequel toutes les personnes intéressées par les échanges s'entraident entre elles pour échanger. Donc si, par exemple, je dispose d'un fichier, il y a un grand nombre de personnes qui sont intéressées par ce fichier. Dès qu'il y a une ou deux personnes qui ont copié une partie du fichier, ils commencent eux-mêmes à la remettre aux autres, à redistribuer vers les autres. Et donc, comme ça, on n'a pas tout le monde qui communique avec un seul serveur pour télécharger les données de ce même serveur. Et alors, il y a un logiciel qui s'appelle BitTorrent qui permet d'échanger en peer-to-peer des informations. Évidemment, cette technologie, elle peut être utilisée pour des échanges de fichiers de façon tout à fait légale, comme ici un fichier Unix, un logiciel disponible gratuitement. Évidemment, on veut aussi échanger des données en temps réel. L'Internet n'était pas conçu pour faire de la vidéo au début. Et donc ça, c'est une difficulté que le réseau doit alors, il doit s'accommoder pour apporter une solution à ce problème. Et donc, comme je l'ai dit, l'Internet évolue pour connecter maintenant tous les objets de la vie. Et pas uniquement des ordinateurs. Ok? Et donc, même des lampes. Par exemple, qu'est-ce qu'on gagne à connecter les équipements à la maison à l'Internet? On peut, par exemple, allumer le chauffage 10 minutes avant d'arriver. Donc, on est en voiture, on envoie un message, on allume le chauffage, et quand on arrive, c'est déjà chaud. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y a un milliard d'exemples. On peut, par exemple, faire ses courses, et en sortant, il y a un échange immédiat entre tout ce qu'on a fait et le dispositif sur place avec les petits RFID. Et donc, on n'a pas besoin de passer le code barre devant la machine. Et déjà, on communique, on nous a identifié et ça passe directement sur le compte. Donc, il y a énormément de progrès que l'on peut, on peut bénéficier donc de très grandes facilités. On peut détecter l'état de tel ou tel équipement. Hein? Et donc, beaucoup de choses seront connectées à Internet et on risque de passer de quelques 800 millions à plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés à Internet. Hein? Donc, il y a un niveau d'échelle qui n'est plus le même. On a augmenté, disons, de 100 millions par an et là, on risque de devoir augmenter de plusieurs milliards. Hein? Donc, le réseau s'accroît beaucoup. Alors, c'est quoi ces difficultés? Après avoir vu comment est-ce que le réseau a évolué, comment est-ce que le monde a évolué, on regarde maintenant les difficultés de l'Internet à faire face à cette évolution. D'abord, sachez que le protocole Internet, il n'était pas conçu avec l'idée que les ordinateurs vont bouger. Ça, c'est un problème. Et il n'était pas conçu pour assurer la diffusion de données à un grand nombre de personnes. C'était prévu pour accéder à un serveur et télécharger des données d'un serveur. Et quand ils ont conçu ce protocole, ils se sont dit, allez, on va se donner de la marge. Alors, ils ont mis 4 milliards de numéros. Et donc, sur Internet, il y a environ 4 milliards de numéros de machines. Et on a aujourd'hui combien d'ordinateurs? 800 millions? Oui. Mais je ne sais pas si vous avez entendu à la radio. En fait, tous les numéros d'Internet ont été déjà attribués. Parce qu'il y a pas mal de numéros qui sont réservés. Et puis, il y a différentes méthodes d'attribution de numéros qui font qu'on a des limitations. Alors, sachez qu'il n'y a plus d'adresse IP disponible. Donc, les numéros IP ont été attribués il y a une semaine. Les derniers blocs de numéros IP ont été attribués. Donc, il n'y en a plus. Donc, que faire maintenant si, par exemple, on veut connecter 500 millions d'Africains à Internet? Ou on veut connecter, par exemple, 500 millions de Chinois à Internet? Comment ils vont faire? Il y a besoin de nouveaux numéros. Or, la version actuelle ne contient que 4 milliards, et même si on n'a que 800 millions d'ordinateurs, ces 4 milliards ont déjà été épuisés. Donc, le premier problème, c'est la mobilité. Donc, juste, je vous montre, il est où le problème, il réside où le problème. En fait, l'Internet suppose qu'il y a un chemin vers la destination. Quand on envoie des données, on a en tête qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui attend ces données. Donc, il faut un chemin. Mais si maintenant, la destination bouge, ou bien moi, la source, je bouge, ou bien le réseau lui-même bouge. Par exemple, je suis dans une voiture et je vais envoyer vers une autre voiture qui est plus loin, mais j'utilise le réseau des voitures, le réseau véhiculaire. Donc, en fait, le réseau lui-même bouge ici. Et alors, si je perds la connexion, je perds le lien avec la destination, comment je vais faire? J'ai plus de moyens d'atteindre la destination. Ça, c'est un gros problème. Hein? Et donc, actuellement, comment on fait? À chaque fois qu'on bouge et qu'on perd le lien, on recalcule un nouveau lien pour recalculer un nouveau chemin. Mais parfois, il n'y en a plus aucun chemin. Donc, ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la diffusion à un grand nombre de personnes. Vous savez, en 2006, il y avait les Jeux Olympiques et il y a eu un skieur qui est tombé, je pense, et il a été filmé. Donc, la vidéo de ce skieur qui est tombé a été regardé par un très grand nombre de personnes, tellement grand que le serveur qui s'en occupait est tombé en panne, il s'est écroulé. Et quand ils ont diagnostiqué pourquoi ce qui est tombé en panne, ils ont regardé la mémoire de ce serveur, ils ont trouvé qu'il y avait 6000 personnes qui demandaient la même vidéo au même moment. La même vidéo au même moment. Alors bon, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi est-ce que le serveur doit alors répondre individuellement aux 6000 requêtes? Pourquoi il n'envoie pas, par exemple, quelque part vers le réseau, et puis, là où il y a un groupe d'utilisateurs intéressés, on leur fait une copie pour tous ces utilisateurs, et puis après, le réseau se débrouille pour copier les données. Donc, je vous ai dit, avec BitTorrent, la transmission pair à pair permet de contourner ce problème parce que les personnes intéressées se font des copies entre elles et ne reviennent plus vers le serveur d'origine, mais ce serait bien si le réseau lui-même peut aider à régler cela. Alors, comment évolue le réseau pour faire face à ces deux problèmes? Le problème de mobilité et le problème d'assurer la diffusion des données. Là, je vous ai mis, juste pour la photo, des technologies nouvelles de mémoire. Bon, on ne s'intéresse pas à ce que c'est juste pour vous montrer qu'en fait, au niveau technologique, hein, on arrive à miniaturiser de plus en plus la mémoire. Et donc, dans votre iPhone, vous pouvez avoir 32 gigaoctets. C'est vraiment énorme. C'est énorme, ça. Ça correspond à un très gros ordinateur d'il y a une vingtaine d'années. On n'avait pas 32 gigas à l'époque. Et donc, maintenant, on l'a dans un petit téléphone. Et ça va encore de plus en plus. Donc, première information, la mémoire n'est pas chère, la mémoire d'ordinateur n'est pas chère, et technologiquement, elle est disponible, on peut l'avoir donc de façon importante. On peut avoir beaucoup de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? On peut dire, tiens, vu qu'on a énormément de mémoire, ce qu'on peut faire alors, c'est que le réseau garde une copie des données qui circulent. Comme ça, s'il y a un problème, c'est le réseau qui va se débrouiller pour régler ce problème, vu qu'il y a pas mal de place mémoire dans le réseau. Et en particulier, si par exemple, vous avez déjà envoyé 9 mégaoctets de votre fichier et vous entrez dans le tunnel, vous allez perdre la connectivité, sauf que le réseau a déjà la copie des 9 mégas. Et quand vous vous connectez de nouveau, il vous dit, eh ben, commencez à partir du dernier méga, c'est bon, j'ai déjà les 9. Vous n'avez pas à recommencer dès le début. Donc ça va améliorer la façon avec laquelle vous communiquez avec le réseau, quand le réseau garde une copie des données. Maintenant, et donc ça va permettre de gérer le problème de la perte de connexion, mais aussi le problème de la diffusion. Pourquoi? Parce que supposez maintenant que vous avez un serveur qui s'occupe de la retransmission de la Coupe du Monde. Ben alors, ce serveur... S'il y a quelqu'un qui est intéressé, alors le serveur va lui envoyer la vidéo, mais sur toute la route, les serveurs intermédiaires vont garder une copie de la vidéo. Et si quelqu'un demande une copie de la vidéo, il l'aura du serveur le plus proche de lui, et non plus, il n'y a plus besoin d'aller vers le serveur d'origine pour copier la donnée. Donc, ce mode de garder une copie dans le réseau, il permet de faire face à ces deux gros problèmes, la diffusion et la mobilité. Mais le plus grand problème, c'est l'expiration ou l'absence de nouveaux numéros IP. Donc actuellement, la version du protocole IP s'appelle IPv4, IP version 4. Donc si vous entendez dire IPv4, c'est la version actuelle du langage commun à tous les ordinateurs. Tout équipement connecté à Internet parle la langue IP. Il intègre le logiciel IP. D'accord? Et donc, c'est la version 4 qui est utilisée actuellement et qui permet d'avoir 4 milliards d'adresses. Ce n'est pas suffisant pour l'Internet des objets. Pour connecter tous les objets Internet, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les experts préparent une nouvelle version qui s'appelle la version 6. Alors, la version 5, ils ont travaillé dessus, puis ils l'ont écartée. Donc on passe directement à la version 6, mais figurez-vous, sur Internet, on ne va pas dire à tout le monde, bon allez, aujourd'hui, vous arrêtez tout et on passe à une nouvelle version, et puis on va faire un test tous ensemble. Non, il y a une journée, le 8 juin, qui est une journée de test qui sera effectuée par certains gros acteurs de l'Internet pour tester cette version 6 avant de la mettre en service. Donc, d'ici quelques temps, vous allez entendre parler de plus en plus d'IPv6. Le gros problème, c'est que IPv6 et IPv4 ne parlent pas ensemble. Et donc, ils sont fâchés l'un avec l'autre. Et donc, en fait, on a un problème de compatibilité. Il y a un problème de compatibilité. Et donc, il faut alors des équipements qui permettent de traduire de l'un à l'autre. Donc, ça ne va pas être facile. Mais c'est obligé pour pouvoir passer à un nombre plus grand d'utilisateurs. Bien sûr, les experts essayent de trouver d'autres solutions que IPv6 et c'est en cours de recherche. Bon, donc évidemment, pour discuter de ce genre de choses, on peut rester des heures et des heures. Voilà les sujets que je n'ai pas développés ici. Je n'ai pas parlé du pair à pair beaucoup. Je n'ai pas parlé des réseaux sociaux, Facebook, etc. Parce que, en fait, tout cela, hein, ce sont des applications, des services qui utilisent l'Internet. Donc, quelle que soit votre utilisation d'Internet, ok, vous utilisez les technologies dont j'ai parlé ici. Ok, donc c'est, les informations dont j'ai parlé ici sont communes à toute façon de communiquer sur Internet. Ok, et donc, quand vous faites du Skype, vos données sont découpées en morceaux avec le bout jaune, avec le bout rouge, ça part vers la destination, hein, avec les mêmes moyens qui sont là. Ok. Maintenant, comme j'ai dit dans une des diapositives, tout sur IP. Ça veut dire quoi, tout sur IP? Toutes ces applications fonctionnent avec le langage IP. Et donc, c'est ce qui fait la puissance de ce logiciel, de ce langage, de ce protocole, en fait. Le mot technique, c'est protocole. OK. Un dernier mot sur l'aspect sécurité. Je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais j'attire votre attention sur les dangers, hein, en informatique des virus et des vers. Les virus étant des programmes malveillants qui sont résidents dans un autre logiciel et qui s'incrustent alors et profitent pour endommager votre machine ou avoir d'autres actions malveillantes. Les vers, eux, n'ayant pas besoin d'un programme résident pour pouvoir se multiplier et échanger des données. Donc en fait, c'est des nuances. Il y a évidemment d'autres types de virus ou d'autres types de programmes malveillants. Alors quel est le risque? Voilà ce que peut faire un ver, par exemple. Il peut espionner votre ordinateur, voir vos fichiers, qu'est-ce que vous avez. Il peut donner l'accès à quelqu'un d'autre pour entrer sur votre machine et voir ce qu'il y a dessus. Okay? Donc, faciliter l'accès à quelqu'un d'autre. Il peut détruire des données, effacer carrément des parties de votre mémoire. Et il peut aussi être utilisé comme une machine d'attaque. Donc en fait, il y a des groupes maintenant qui font ce qu'on appelle des botnets. C'est quoi les botnets? C'est des réseaux qui fonctionnent pour autrui. C'est-à-dire votre machine, il se peut que votre ordinateur soit utilisé par autrui pour envoyer des attaques. Donc comment on fait d'abord? On vous envoie un ver, hein, qui s'incruste dans votre machine et qui est en mode veille et qui attend les instructions. Et quand l'ordre vient du grand chef, alors on va demander à votre machine de lancer une attaque vers une machine. Qu'est-ce que c'est une attaque? Avec quelle arme on attaque? On attaque avec les paquets. Les petits morceaux bleus avec le bout jaune et rouge, ben c'est ça. Comment est-ce que ça peut être une attaque? Prenez le serveur d'une banque. Si on veut attaquer la banque, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben on envoie 1 million de requêtes au serveur de la banque. Le serveur va s'écrouler. Il ne peut pas gérer 1 million de requêtes. Il ne peut pas. Bon, au bout de 500 requêtes, il va ralentir, et après, stop. Et donc, on peut faire une attaque qu'on appelle déni de service. Déni de service, c'est-à-dire attaquer quelqu'un de sorte à l'empêcher de faire son service habituel. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut, par exemple, attaquer le site de tel ministère ou tel truc. Donc, il y a des guerres comme ça, des cyberguerres. Des cyberguerres. Et on peut penser que nous, on n'y est pour rien dans cette cyberguerre, mais peut-être que votre machine, chez vous, est utilisée par un réseau, hein, pour lancer une attaque. Parce qu'en fait, ils sont malins. Ils ne veulent pas se faire dévoiler. Parce que dans les morceaux, là, dans les morceaux bleus, il y a l'adresse rouge, mais il y a aussi l'adresse jaune. C'est qui le jaune? C'est l'émetteur. Donc celui qui a émis le morceau, on l'identifie avec son numéro. On dit, tiens, c'est toi, viens ici. Ben alors, ils ne veulent pas que ça soit eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font lancer l'attaque par quelqu'un d'autre. OK? Et donc ça, comment on appelle un réseau de machines qui est colonisé par d'autres? C'est un botnet. Et aujourd'hui, il y a toute une activité pour essayer de détecter ce type de fonctionnement et de le corriger. Dernier point très intéressant que je veux évoquer, c'est un danger encore plus grave que les botnets, c'est l'aspect du privacy en anglais, c'est la protection de la vie privée de chacun. Alors, faites attention, beaucoup de personnes sur Internet, que ce soit des jeunes ou moins jeunes, hein, rendent publiques des informations sur Internet. D'abord, c'est volontaire, on peut dire sur Facebook, je mets des images, je mets des infos, etc. Hein? Vous avez peut-être entendu dans les médias que certaines personnes ont encouru certaines sanctions parce qu'ils avaient publié des infos sur Facebook. Donc on peut à un moment donné mettre une info sur Facebook et le regretter après. Donc déjà, ça, c'est une donnée qu'on a mise volontairement. Mais attendez, il y a un danger beaucoup plus grave, c'est des données individuelles, nous concernant, que l'on met, que l'on rend public involontairement. Par exemple, l'historique de votre navigation. Quand vous avez navigué, sachez que Google connaît tous les sites que vous avez, vous, consulté. Ils ont cette info. Et certains ont pu attaquer ce système et détecter l'historique de consultation de d'autres utilisateurs. Ok ? Évidemment, Google s'engage à ne pas le rendre public. Quand vous cliquez « Yes », etc., la licence, hein, Google s'engage à ne pas rendre public cette info. Mais ils disposent de cette info et il se peut que quelqu'un puisse détecter cela. Et il y a des chercheurs qui ont pu détecter l'historique de navigation d'autres utilisateurs. Donc il y a des informations qui sont individuelles et qui sont rendues publiques sur Internet involontairement. Ok ? Mais pas seulement ça. Vous avez... Je présume beaucoup d'entre vous ont le GPS sur leur téléphone portable. Ben, le GPS, il vous localise. Hein, comme ça, il vous donne « Ouais, je suis sur la carte, je suis content et tout. » Sauf que il envoie aussi des informations pour vos amis et d'autres où vous êtes. Et donc, on peut localiser des personnes et pas qu'avec le GPS. Parce que ce fameux numéro IP dont je parlais, non seulement il identifie la machine, mais il donne une information où est présente la machine. Où est-ce que la machine est présente? Où est-ce que vous êtes présent? Et donc, on peut suivre quelqu'un. On peut suivre quelqu'un pour suivre sa mobilité. Ok? Donc, ce sont des sujets très importants et qui nécessitent d'être au courant de cela. Donc, regardez là, c'est une image très connue. Je suis sûr que vous l'avez déjà vue sur Internet. C'est une image dans les années 90 qui a circulé. C'est un chien noir qui pianote sur son clavier et qui dit à l'autre, bah, écoute, sur Internet, personne ne sait que tu es un chien et comme ça, tu délires, tu fais ce que tu veux. Ok ? Bah, alors, figurez-vous que l'Internet a évolué depuis et que maintenant, on n'a plus besoin d'un gros clavier et d'un ordinateur, mais avec le téléphone portable, on se connecte à Internet. Sauf que maintenant, on connaît tout sur ce chien. On connaît son nom, on connaît sa race, on connaît son aliment préféré, ses loisirs, où est-ce qu'il habite et où est-ce qu'il est actuellement. Ok ? Et quel est le dernier film qu'il a téléchargé par BitTorrent ? Ok ? Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Et là, ça ressemble à une blague, mais ce n'est pas une blague. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est des personnes malveillantes, peuvent obtenir toutes ces informations sur un utilisateur sur Internet. Donc, tout le monde sait que c'est un chien noir. Ok ? Donc voilà, ça termine la partie technique de ma présentation. Un dernier mot pour présenter un peu ce que c'est la recherche, parce que je suis d'un institut de recherche qui s'appelle l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Alors, quel est notre rôle dans l'évolution de l'Internet ? Il y a énormément de personnes mobilisées pour étudier ces problèmes et pour proposer des solutions. Mais vous imaginez qu'une solution pour des problèmes de ce genre ne se limite pas à des tests en laboratoire. Il faut faire des grands tests à grande échelle, afin de pouvoir convaincre de l'intérêt de notre approche. Alors, comment on procède ? Il y a des gens qui se spécialisent dans ce qu'on appelle la modélisation mathématique. Ils écrivent des formules qui décrivent le fonctionnement d'Internet. Pourquoi ? Ben c'est très intéressant, c'est très important. Pourquoi ? Avant de faire quoi que ce soit, on peut modéliser et puis faire des calculs et dire, ben tiens, si je change les choses de telle ou telle façon, je m'attends à avoir tel et tel résultat. Donc ça aide beaucoup. Pourquoi ? Ça n'a pas besoin de faire des gros tests sur le terrain. Donc la modélisation mathématique est un outil très puissant. Mais après, bon, on a modélisé, maintenant, est-ce qu'on peut passer directement de la modélisation au déploiement généralisé ? Non, il faut faire des tests. On commence par des tests en laboratoire, Donc on peut avoir des machines interconnectées et après, il faut faire des tests grandeur nature. Et bien, il y a beaucoup de chercheurs, que ce soit en France, en Europe et aux États-Unis et ailleurs, qui font cela ensemble. Maintenant, évidemment, ça c'est la partie recherche. En parallèle, il y a toute l'industrie qui continue à générer de nouvelles applications. Vous avez entendu que les applications sur un genre de téléphone portable ont dépassé les 10 milliards de téléchargements en très peu de temps. Donc, disons, ce qui rend la chose très intéressante ici, c'est qu'on fait de la recherche, mais la technologie évolue continuellement. Donc, il faut pouvoir suivre cela. Alors, je lance un appel à ceux qui sont intéressés par les aspects scientifiques et aux autres. C'est un sujet très, très intéressant et vous pouvez contribuer vous-même en faisant des études et en avançant dans ce domaine-là vers une contribution à améliorer l'Internet. Il n'y a pas de raison. Il y a eu énormément de contributions françaises à l'évolution de l'Internet et ça pourra continuer. Voilà, je vous remercie.